Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir apporter la parole de Dieu, en tout cas ce que j'ai pu en retirer pour moi-même et en préparer pour ce matin. Nous sommes actuellement dans la première épître de Pierre. C'est une épître qui est extrêmement intéressante, alors on pourrait le dire pour toutes les épîtres et tous les livres de la Bible, mais dans le sens où Pierre, en quelques pages, résume, en fait, fait comme un résumé, un concentré de tout ce qu'on a besoin pour notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. En préparant ce message et avec le texte d'aujourd'hui, je me suis dit que si dans la salle ce matin, il y avait des personnes antérieurement en rébellion contre Dieu, des personnes, peut-être on n'ose jamais le dire, mais des personnes déçues par Dieu, ou déçues par ce qu'ils voient en tout cas des enfants de Dieu, je me suis dit que ça risquait d'être difficile à entendre. Que ce que j'avais à dire risquait d'être difficile à entendre. Les paroles même que Pierre utilise dans ce passage sont à nos oreilles d'aujourd'hui sûrement, même si on n'est pas en tension avec Dieu, sont sûrement quand même malgré tout difficiles. On va parler ce matin de soumission. De soumission, oui. On ne va pas parler que de ça. Mais c'est quand même ce qui ressort de ces quelques lignes de la lettre de Pierre. Mais j'aimerais justement, avant de même lire le passage, remettre un tout petit peu en perspective ce que fait Pierre dans sa lettre. Pierre a écrit deux lettres. Dans la deuxième, il dit, par exemple, c'est dans 2 Pierre 3, verset 1, il dit qu'il cherche à stimuler en nous une saine manière de vivre, en nous rappelant l'enseignement sur lequel nos vies doivent être fondées. Ça, c'est le but de Pierre. Stimuler en nous une saine manière de vivre. Il faut se rappeler que Jésus avait dit à Pierre qu'il allait affermir ses frères. Et quelque part, c'est le but de ces deux lettres de Pierre. Pierre conclut cette première lettre qu'il a faite écrire par Sylvain. Pierre nous rappelle, c'est dans 1 Pierre 5, verset 12, que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que nous sommes attachés. Il sait qu'il écrit à des chrétiens qui sont dans une situation difficile, ou en tout cas qui s'annonce difficile, qui est déjà peut-être un peu difficile, et qui visiblement ne va pas s'améliorer. Ceux qui ont prêché avant moi l'ont déjà bien rappelé, le contexte de début de persécution avec Néron, et on voit que, et on sait avec l'histoire, que les choses n'ont franchement pas été simples pour les chrétiens de l'Empire romain. Comment vivre sa foi à l'époque et aussi pour nous aujourd'hui? On pourrait se dire que les réponses de Pierre sont un peu étonnantes. On a vu les fois passées qu'il fallait espérer en Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu, qu'il fallait se consacrer à Dieu. Et aujourd'hui, Pierre nous dit que c'est en se soumettant. En se soumettant pas seulement à Dieu, en se soumettant aux autorités, en se soumettant à nos maîtres, à nos patrons, pour les épouses, en se soumettant à leur mari. J'ai entendu un prédicateur qui disait une fois qu'on ne vit pas seulement d'une juste perspective. On n'a pas seulement besoin de connaître la destination où on va dans notre vie chrétienne. Oui, on sait qu'on sera un jour auprès du Seigneur, auprès de Christ. Mais on a aussi besoin de connaître le chemin dans lequel on doit marcher. On a vu la dernière fois qu'on était un peuple de prêtres. Mais comment vivre notre sacerdoce, notre rôle de prêtre ? Alors qu'on est loin de la patrie céleste. Comment jouer notre rôle de témoin dans ce monde perdu, où tout va si mal? Alors j'aimerais que ce matin, et je m'attarderai surtout sur les premières phrases de ce passage, parce que finalement tout découle de là. Alors j'aimerais que ce matin on puisse être pleinement conscient de la réalité de notre situation, pour qu'on ait envie vraiment de devenir encore plus des imitateurs de l'amour de Christ, des imitateurs de Christ lui-même, qu'on soit soumis à cause du Seigneur, comme le dit le texte. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la puissance à nos paroles ou à nos actes, quand il n'y a pas de paroles, pour que ceux-ci témoignent de la miséricorde de Dieu. Alors, je vous invite à lire avec moi. C'est dans 1 Pierre au chapitre 2. Et on va commencer à lire au verset 11. Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé tout à l'heure en disant que ce serait peut-être difficile à écouter ce matin ce que j'avais à dire, ce que la Bible nous dit. Mais justement, Pierre, qui aborde un aspect difficile de la vie des gens à qui il s'adresse, des chrétiens qui étaient dans la Turquie actuelle, il sait aussi que c'est dur pour eux. Alors il commence par ces mots, bien-aimés. Vous, mes très chers, je vous encourage à vous abstenir d'une force qui est encore en vous-même. Je ne veux pas vous tromper, je veux vous aider au mieux. Sachez qu'il y a une guerre intérieure. Mais bien aimé. Pierre dit cela des personnes, des frères et sœurs à qui il écrit. Mais nous savons aussi, comme Paul le dit dans Éphésiens, que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et qu'à cause de cela, on est appelé à imiter Dieu, à être les imitateurs de Dieu. Le bien-aimé par excellence, le bien-aimé de Dieu par excellence, c'est Jésus. C'est lui qui est notre exemple, comme on le verra tout à l'heure. C'est par lui que nous avons accès à Dieu et que nous sommes sauvés. Mais bien-aimé, ce que je m'apprête à vous dire, c'est dur. Il faut remarquer que Pierre, il n'écrit pas des super grandes lettres. Il est sobre, synthétique. Mais ce qu'il dit est puissant. Ce qui est frappant peut-être, et je le mets en lien avec tout ce qu'il a déjà écrit avant, c'est que Pierre, il sait parfaitement à qui il s'adresse, des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive. Des chrétiens à qui il a rappelé dans les quelques lignes avant qu'ils avaient une nouvelle identité de famille. Il leur a dit, vous qui n'êtes pas juifs d'origine, vous êtes comme le peuple juif. Vous êtes comme ceux qui ont quitté l'Égypte. Et vous devez ceindre les reins de votre entendement. Vous devez abandonner les anciennes manières de vivre. Il leur a dit, vous qui êtes le peuple choisi de Dieu, même si vous n'avez pas d'origine juive, eh bien, vous voyagez sur une terre étrangère. Vous êtes un peuple saint appelé à voyager sur une terre étrangère. Ça peut paraître étonnant parce que, et il le dit encore là, vous qui êtes étrangers et voyageurs. Mais il s'adresse à des gens qui sont, c'est pas des juifs qui ont été dispersés, qui ont dû fuir. C'est des gens qui, ça fait peut-être 3, 4, 5 générations, qui vivent là où ils sont. Quelque part, ben, géographiquement parlant, physiquement parlant, ils ne sont pas voyageurs, étrangers sur cette terre. Ils le sont devenus parce qu'ils ont mis leur confiance en Christ. Et à cela, ils ressemblent au peuple d'Israël et c'est une composante du peuple de Dieu, encore pour aujourd'hui. Il leur a dit, vous êtes ce peuple de la nouvelle Exode, en quelque sorte, qui a été racheté par le sang de Jésus, qui est le vrai agneau pascal. Vous êtes le peuple de la nouvelle Alliance, et vous avez en vous la parole de Dieu qui est fortement, profondément ancrée. Vous êtes ce nouveau temple, bâti sur cette pierre d'angle, que les autres ont rejeté. Vous êtes construit et vous devez vous construire sur le fondement de Jésus-Christ. Et finalement, vous êtes ce nouveau peuple de prêtres qui sert Dieu auprès des nations. Pierre, en quelque sorte, jusqu'à maintenant, il l'a dit aux gens à qui il écrit, « Voilà votre dignité. Vous n'êtes pas juste des chrétiens de seconde zone parce que vous n'avez pas d'origine juive. Non, non, voilà votre dignité. Finalement, votre dignité, c'est la même que ceux qui ont une origine juive. » Ces chrétiens sont persécutés. Mais Pierre a tout fait pour placer leur persécution actuelle et à venir dans un contexte nouveau. Il est en train de leur dire « Votre persécution peut aider à clarifier votre mission dans ce monde. » Parce que, d'une manière toute particulière, est difficile. Mais vous pouvez, et il les appelle, à être des témoins. On se rend compte que Pierre ne parle pas de la mission, de partir au loin, etc. Non, il parle de quoi? De quelle difficulté? Du boulot, de la famille, des serviteurs, des esclaves avec leur maître, des femmes dans le foyer. C'est une persécution que l'on peut vivre aussi aujourd'hui, qui est privée, qui est intime. Eh bien, la manière dont nous pouvons vivre ces difficultés peut révéler la miséricorde de Dieu à ceux qui nous entourent. Je disais tout à l'heure que les gens à qui Pierre écrit ne sont pas, pour leur région, pour là où ils habitent, des étrangers ou des voyageurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, comme pour nous d'ailleurs, que nous vivons l'Exode, comme le peuple d'Israël l'a vécu? Eh bien, notre Exode n'est pas physique, donc n'est pas géographique, mais c'est une Exode, qu'on pourrait dire, hors du péché. Hors du péché. C'est pour ça que Pierre dit « Ne cédez pas au désir de l'homme qui est livré à lui-même. » En fait, on est appelé à vivre une exode en dehors de nous-mêmes, en quelque sorte. En dehors qui nous pousse à rejeter le vrai problème qui nous touche, qui touche notre monde et qui est un problème fondamental de l'être humain, le péché qui tord, qui détruit petit à petit l'être humain. Et c'est pour cela que parce que notre exode n'est pas géographique, n'est pas physique, que nous sommes appelés à rejeter le péché, c'est pour ça que nous sommes appelés à être saints, à vivre dans la sainteté, et pas en dehors du monde, mais au milieu du monde. Alors la chose peut-être la plus fondamentale dans ce passage, le premier impératif, Pierre dit « Ayez une bonne conduite ». Mais avant cela, il dit quelque chose qui peut nous interroger. Donc il invite à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Peut-être que ce n'est pas très concret pour vous ce matin. Ça veut dire quoi, s'abstenir ? Des convoitises, des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Je crois que ces désirs, ces convoitises, c'est quelque chose que personne ici auquel on échappe. Personne n'échappe à cela. C'est quelque chose qui a profondément entaché l'image de Dieu qui est en nous. L'homme qui s'est détourné de Dieu, c'est comme s'il portait en lui une sorte de dégénérescence qui, depuis Adam et Ève, agit comme une maladie intérieure profonde et qui fait que notre cœur, quand il n'est pas régénéré, est profondément envahi par les ténèbres. Le cœur humain est habité par des forces ténébreuses que la Bible appelle des convoitises, des désirs. Alors, si on réfléchit un peu, on peut se dire, mais il y a quand même des bons désirs. Jésus dit à un moment donné à ses disciples qu'il a le désir de prendre avec eux la Pâque. Paul dit à ceux à qui il écrit qu'il a le désir d'aller les voir, c'est des bons désirs. Mais il y a aussi des mauvais désirs, ce que la Bible en général appelle la chair. On lit dans les différentes lettres de Paul que nous sommes appelés à marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc ces désirs sont clairement contre l'esprit. C'est des désirs qui convoitent contre l'esprit et qui veulent prendre la place de Dieu. Il y a en chaque être humain une force qui se définit radicalement contre Dieu, qui ne veut pas que nous soyons dépendants de Dieu, qui ne veut pas de la vie par l'esprit. Paul dit dans Romains 8 que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, qu'elle a des élans constants vers la mort, qui nous poussent à la mort, alors que lui, l'esprit, tend à la vie et à la paix. On pourrait dire, et c'est un théologien qui le dit comme ça, que la chair est haine contre Dieu. Vous me direz, et je serai d'accord avec vous, que ce n'est pas toujours flagrant chez tout le monde. Je n'ai pas l'impression, quand je regarde mes collègues ou des gens autour de moi, que les gens ont une haine contre Dieu. Ce n'est pas flagrant. Mais si on avait la loupe de Dieu, on se rendrait compte qu'il y a réellement cette haine contre Dieu. C'est lié tout simplement au péché qui est entré dans le monde et à cette parole de l'ennemi qui a dit « Mais tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme Dieu. » Et depuis là, il y a ce truc en nous qui est contre Dieu. C'est un peu comme une maladie génétique, on pourrait enlever toutes les cellules, mais on n'arriverait pas à nettoyer complètement cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit que cette chair est vouée à la destruction. Elle n'héritera jamais du royaume de Dieu. Il n'y a que la puissance de l'esprit qui peut contrer les effets dévastateurs de la chair et placer la vie en nous. Nous sommes dans cette situation. Nous avons cette dignité de ce que Dieu a fait pour nous, de ce quoi nous sommes, ce dont nous sommes au bénéfice, mais nous sommes dans cette situation où il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Des désirs malsains, des désirs égocentriques, l'envie d'avoir. Des désirs simplement qui cherchent à s'ériger contre Dieu ou comme Dieu. Si dans votre tête ce matin vous pensez à quelque chose qui vous pousse à être contre Dieu ou à être comme Dieu, sachez que ça c'est un désir dont vous devez vous abstenir. Et la seule puissance qui vous permet de le faire, c'est la puissance de vie que Christ met en nous. Ces désirs, c'est comme dans l'image du combat que Paul donne dans Éphésiens, c'est comme ces flèches que l'ennemi tire constamment contre nous. Ces désirs, c'est comme une porte ouverte au monde des ténèbres comme je l'ai entendu aussi une fois dans une prédication, c'est l'ambassade de Satan dans notre vie. Alors si vous avez dans votre vie une ambassade de Satan, et nous l'avons, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites des allers-retours dans l'ambassade, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez? Pour aller voir comment c'est? Non. Nous n'y entrons plus. Nous ne voulons plus y entrer. Et quand nous le faisons, c'est consciemment. Parce que nous avons été affranchis de cette puissance. Et quand nous le faisons, nous pouvons tout simplement nous rappeler la parole de Dieu qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. En Dieu le pardon. En Jésus-Christ la liberté face au péché. Il le dira après. Il le dira à nous tous, soyez soumis. Et il dira à un moment donné, étant libre, vous êtes libre aujourd'hui. Mais cette liberté ne doit pas être un prétexte pour couvrir notre méchanceté. Mais au contraire, elle doit être notre motivation pour servir, être soumis, être comme des serviteurs de Dieu. Alors, pour gagner cette guerre de l'âme, eh bien, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître cette réalité. Si ce matin, vous rendez compte que vous n'avez jamais reconnu cette réalité, que vous pensez que vous êtes peut-être suffisamment bien, que jamais vous vous êtes dit que, oui, il y avait des choses en vous qui n'étaient pas bonnes, sachez que la première chose, c'est de reconnaître devant Dieu cette réalité et qu'en Dieu, vous pouvez être pardonné. Christ à la croix a crucifié la chair et son pouvoir, ses passions, ses convoitises. Cette chair, elle vit encore. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien qui est au-dessus de nos forces. Donc je peux dire un non radical au péché. Je peux dire, vous pouvez dire avec moi, je renonce. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'est peut-être le point capital de ce passage? Parce que si nous n'arrivons pas à mener ces combats à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on pourra faire face aux situations difficiles au dehors de nous? Comment est-ce qu'on pourrait être les témoins de la miséricorde de Dieu? Comment est-ce que je pourrais affronter les épreuves? J'ai repris le sport, il y a 15 jours. Ça se voit pas encore, pardon. Je le ferme pas encore. J'en ai un peu besoin, donc je me suis dit, là, quand même, mes 40 ans arrivent bientôt. J'ai des deux filles à relever avec mes fils, là, qui m'ont mis des challenges, là, pour mes 40 ans. Faut que je batte Corentin en sprint. On va voir si je vais y arriver. Mal parti. Mais bon. Mais quand j'ai commencé, il y a 15 jours, à aller courir le midi, il y a un verset qui m'est revenu à l'esprit, c'est que l'activité physique est utile à peu de choses. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais la piété est utile en toutes choses. M'approcher de Dieu, être conscient de tout ce qu'il a fait pour moi, être conscient que, oui, encore aujourd'hui, il y a une guerre en moi. Pouvoir le confesser à Dieu, pouvoir m'approcher de lui pour être pleinement au bénéfice de la vie et de la force par son esprit qu'il met en moi, ça oui, j'en ai besoin tous les jours. Bien plus qu'un petit peu d'activité physique, de 3 tours de terrain tous les midis, etc. Notre chair cherche constamment à s'opposer à ce que Dieu veut réellement pour nous. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Et il y a ces forces en nous qui nous tiraillent, qui nous veulent nous éloigner de ce but. Est-ce que vous voulez être comme on l'a vu ces semaines passées, être des pierres vivantes qui construisent le temple de Dieu. Est-ce que vous voulez avoir cette place humble dans l'édifice qu'est l'Église? Est-ce que vous voulez persévérer dans la communion fraternelle? C'est pas important tout ça? C'est le plus important. C'est ce que nous voulons. Mais comment le vivre? Comment vivre cette obéissance que Dieu nous demande? Comment vivre notre foi aujourd'hui dans notre société? Eh bien, Pierre nous dit, ayez une bonne conduite. Et cela se transcrit littéralement dans notre vie par la marque de la soumission. Vous voulez recevoir et vivre la parole vivifiante qui est une action permanente dans votre vie? Ah oui, on en a besoin pour vivre la soumission. Pierre a dit un peu, en fait, le but, l'objectif général. Le but final, c'est que, comme il le dit, c'est que tous glorifient Dieu. Tous. Que ça soit le jour où la personne plie le genou devant lui, de son vivant, que ça soit au jour du jugement. Tous glorifieront Dieu. Pour cela, il y a un objectif pour nous, chrétiens, un principe général, c'est que nous devons avoir une bonne conduite, et cela se traduit par le fait de faire le bien, en étant soumis à cause du Seigneur. Nous devons apprendre à être comme le Seigneur, à agir, à réagir sans se rebeller, à accepter comme une grâce les souffrances et persécutions liées à notre vie avec le Seigneur. Et c'est pour ça, tout simplement pour cela, que Pierre encourage les chrétiens de l'époque, nous encourage aujourd'hui à nous soumettre aux lois, aux autorités, même si elles deviennent oppressantes. Il n'y a pas de question à se poser quand il y a une persécution. C'est totalement injuste. Mais, et je pense qu'on peut tout simplement le voir parfaitement aujourd'hui, résister par la violence, est-ce que ça règle les problèmes? Je crois qu'on en a l'image parlante aujourd'hui avec ce qui se passe régulièrement dans les rues. Non seulement ça règle pas, la violence ne règle pas le problème, mais en plus, c'est à l'opposé des enseignements de Jésus, qui nous a dit d'aimer nos ennemis plutôt que de les tuer. Faire le bien pour que tous reconnaissent la miséricorde de Dieu. Alors, on est appelé à faire le bien que les gens autour de nous reconnaissent comme étant le bien. Logique. Mais pas seulement. On le fait aussi, comme dit Pierre, on le fait par acquis de conscience envers Dieu ou devant Dieu. Je me suis posé la question, et je vous pose la question, mais vous savez ce que ça fait pour un esclave de se tenir devant son maître comme s'il était devant Dieu? Vous savez ce que ça fait? Bien, j'ai repensé à ces esclaves qui ont découvert la puissance de l'Évangile quand ils étaient dans les champs de coton. Qui ont écrit ces chants magnifiques, ce qu'on appelle les négros spirituels. Ces gens qui étaient des esclaves, mais qui se tenaient devant Dieu, avaient retrouvé leur humanité, leur dignité. ils avaient compris que bien qu'étant esclaves, c'est devant Dieu qu'ils se tenaient. Quand vous êtes dans votre famille, quelle que soit votre famille, quand vous êtes au travail, quand vous êtes à l'école, à la fac, etc., c'est devant Dieu que nous sommes appelés à nous tenir, à vivre. Oui, notre présence, notre vie ici-bas, elle accepte les réalités, les structures de cette création, l'autorité que Dieu lui-même, nous dit la parole, a instituée. On s'y soumet en faisant le bien devant Dieu, tout en acceptant les conséquences de cette soumission. Il ne s'agit pas de se rebeller contre l'autorité quand elle est mauvaise. On s'y soumet, on se soumet aux personnes, mais on refuse leur péché, le péché qui les tord. Les gens à qui nous devons obéir, que ce soit les enfants, leurs parents, moi, mon patron, les gens à qui nous devons obéir ne sont jamais parfaits. C'est pour ça que le Père nous dit, mais c'est à cause du Seigneur. Parce que si c'était à cause de l'autre, on baisserait vite les bras, on abandonnerait assez vite. Souvent, l'autorité, je pense que vous êtes comme moi, et que tous les gens autour de moi, on voit l'autorité souvent comme quelque chose de négatif, qui nous bride, qui empiète notre liberté, qui nous gêne. Mais en réalité, l'autorité, même si elle n'est pas forcément bonne, même si elle est difficile, comme le dit le texte, eh bien, si c'est bien vécu, ça peut être une grâce, un facteur d'épanouissement. Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez quand vous lisez ces versets à première lecture, mais on se dit, mais waouh, vraiment, vraiment, ça peut être une grâce de supporter des souffrances par motif de conscience envers Dieu. Alors, une petite précision. Toutes les souffrances dont parle Pierre ici sont liées au témoignage de notre vie chrétienne. Pierre précise bien, il dit, si vous souffrez à cause de vos fautes, ce n'est pas de ça dont on parle. Si j'ai mal à une dent, que je ne veux pas aller au dentiste parce que j'en ai peur, et que j'ai encore plus mal aux dents, c'est de ma faute. Je ne peux pas dire, Seigneur... Non, mais va chez le dentiste. Les souffrances dont parle Pierre, c'est les souffrances liées à la persécution. Alors, ça ne veut pas dire par là que Dieu ne peut pas aider, quelles que soient les souffrances, même quand elles sont le résultat de notre faute, de notre péché. Dieu n'est pas que le Dieu de ceux qui font tout juste. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin d'une deuxième chance, d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième, d'une sixième, d'une septième. Mais quand nous supportons les afflictions à cause de notre témoignage, notre volonté de vivre pour Dieu, d'obéir à Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce parce que on ne peut pas en fait mûrir, s'épanouir, sans avoir accepté, je dirais même sans aimer le principe ou l'idée de la soumission. C'est pour ça que c'est terriblement important de comprendre ce qui fait la guerre à notre âme et de remporter des victoires par la puissance de Christ là-dessus. Parce que ça va nous rappeler notre condition, ça va nous rappeler, Pierre le dit un peu plus loin dans sa lettre au chapitre 4, il dit... Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Mais c'est terrible. Je dois m'armer de la même pensée que Christ qui a souffert. C'est angoissant. Mais il continue. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Si réellement Christ vit en nous, nous pouvons en finir avec le péché. C'est ça l'espérance que Dieu nous donne, Dieu nous laisse. Oui, la guerre à l'âme sera toute votre vie présente jusqu'au dernier jour. Mais nous pouvons en finir avec le péché. Et pour cela, nous devons nous armer de la même pensée que Jésus qui a souffert. Que cette parole puisse vraiment nous aider à supporter les difficultés que nous pouvons traverser. Un petit mot sur la soumission. Je me suis posé la question, mais quelle est la différence entre l'obéissance et la soumission ? Et j'ai pensé à cette image avec un petit enfant sur sa chaise de bébé. Je me souviens que les nôtres, quand ils étaient petits, on a eu la même chaise de bébé pour les trois. C'était la chaise que j'avais pour moi, que mes parents avaient pour moi à l'époque, et mon papa l'avait remis un peu en état, repeint, reverni. Et on a eu la chaise haute là, pour mettre les enfants, pour qu'ils mangent à table avec nous. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont déjà vu cette situation, si vous avez déjà vu ça, il y a souvent des enfants qui ils se mettent debout sur la chaise et ils ne veulent pas s'asseoir. Et tu leur dis, mais assis-toi pour manger. Et puis non, ils restent debout comme ça sur la chaise. On se fâche un peu. Assieds-toi. Deux, trois fois. Et puis l'enfant, il finit par comprendre que si tu ne s'assieds pas, il risque de prendre une fessée ou ça risque de mal se passer. Donc l'enfant, il finit par obéir. Vous savez comment ça se passe d'habitude ? Je me rappelle, hein, avec les miens, notamment un des trois, là. Il s'assoit, et puis... Et tu vois dans ses yeux que c'est comme s'il disait « Je suis assis, mais c'est comme si j'étais debout. » Obéir ne veut pas dire être soumis. Vous pouvez obéir comme à l'armée et puis dire « Qu'est-ce qu'il est ?» On peut obéir sans être soumis. Et à l'inverse, on peut être soumis sans toujours obéir. Les disciples, Pierre et Jean, quand ils ont été convoqués devant les responsables d'Israël, devant le Sanhédrin, ils leur ont dit « Mais maintenant, vous allez arrêter de témoigner. » Pierre et Jean étaient soumis. Ils leur ont dit, mais oui, on vous est soumis, mais on ne peut pas faire ce que vous demandez. On ne peut pas garder pour nous le trésor que Dieu nous a donné. On est désolé, mais on va devoir le dire. On va devoir partager. Est-ce qu'ils étaient insoumis ? Est-ce qu'ils étaient rebelles à l'autorité ? Non. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils allaient obéir. Pierre dit, honorez tout le monde, faites honneur, dites du bien de tous ceux qui vous entourent. Même plus, aimez vos frères, c'est plus que juste dire des choses. Aimez vos frères. Et il conclut, craignez Dieu, honorez le roi. C'est un peu comme avec l'histoire de la pièce avec César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Craignez Dieu. Honorer le roi. Tout à l'heure, en lisant, j'avais envie de dire honorer Monsieur le Président Macron. Est-ce qu'on est toujours prêt à honorer, à reconnaître ce qui est bien, à dire du bien de ce qui est bien ? Pas toujours facile, hein ? Pour nous aujourd'hui. Imaginez pour les chrétiens de l'époque, avec un souverain, un empereur qui s'appelait Néron, qui a tout manigancé, on ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas qui a accusé les chrétiens, mais bref, il a tout fait pour que ça retombe sur les chrétiens. Il a utilisé les chrétiens comme lampe torche pour les jeux de nuit. Et Pierre leur dit, honorez le roi. ce que Pierre nous demande de vivre au quotidien, c'est la soumission comme témoignage. Ayez une bonne conduite, faites le bien, ayez comme témoignage la soumission. Notre espérance se vit et se voit dans cette forme d'humilité. La situation des esclaves, des serviteurs, était particulièrement difficile. Pareil pour les femmes chrétiennes qui étaient mariées à des maris non chrétiens. Pourquoi c'était difficile ? Parce que ce soit les esclaves ou les femmes, elles devaient faire allégeance au Dieu de la maison. Mais on veut faire allégeance à Dieu, mais elles devaient faire allégeance au Dieu de la maison. Alors comment vivre cela ? Pierre est conscient que pour ces chrétiens-là, donner son allégeance à Jésus produirait de la méfiance. C'était risqué. Il ne leur dit pas « faites tout péter dans la maison, allez-y, témoignez et tout ». Combien de chrétiens, encore aujourd'hui, ce n'est pas notre cas, mais combien de chrétiens vivent leur foi d'une manière totalement cachée, parce qu'ils risqueraient gros pour leur vie ? Est-ce qu'on peut le reprocher, ça ? Non. Mais le moyen que Dieu donne, c'est de être malgré tout soumis. Pour que, même si les gens refusent la parole de Dieu, comme le mari en question, qu'ils soient gagnés sans parole. Sans parole. Que juste parce qu'ils voient, ils puissent dire, mais il y a un Dieu qui aime mon épouse, qui m'aime moi, qui veut faire de moi son enfant. Oui, c'est vrai, tous les chrétiens, y compris les femmes, les esclaves romains, ont été totalement libérés par Jésus. Mais ils doivent démontrer cette liberté, non pas en se rebellant, mais en résistant à la manière de Jésus, en montrant de l'amour et de la générosité envers leurs proches, même si c'est parfois leurs ennemis. Pierre, je trouve qu'il est sobre et il est confiant en même temps. Il est confiant que, en disant ça à ses chrétiens, en leur disant « mais imitez Christ, prenez pour exemple Christ, prenez pour exemple les femmes de l'Ancien Testament, prenez ces exemples », eh bien il est conscient et il est confiant que ça donnera de la puissance à ses frères et sœurs, une puissance pour leur parole ou leur non-parole, pour que ça témoigne de la miséricorde de Dieu. C'est tellement difficile à vivre, je pense, des fois, qu'on a besoin de se rappeler ces vérités. Pierre, dit, mais vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Il le dit de manière à peu près pareille aux femmes. Ne vous laissez troubler par aucune crainte. Donc soyez confiantes dans le berger et gardien de vos âmes. Hier, on avait mes beaux-parents à la maison. Et j'ai parlé un peu de ma belle-mère. Je peux, hein. Elle n'est pas là aujourd'hui. Non, je n'ai pas dire des méchancetés sur elle. Mais on a rigolé parce que, je ne sais plus comment on est venu à parler de ça, mais on parlait du comportement des gens en voiture. C'était ça le sujet. Bref. Et d'ailleurs, j'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps que souvent les gens se comportent sur Internet comme ils sont en voiture. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, effectivement, ils sont aussi violents dans un cas que dans l'autre. Et on peut voir des gens, et des femmes des fois aussi, toutes gentilles, toutes menues, qui s'emportent comme pas possible dans leur voiture. Et Blanche, ma belle-maman, disait, ah oui, quand c'est comme ça, ah c'est terrible, j'ai envie de leur claquer 20 ans de prison. Et dans ma tête, je pensais, ah oui, un esprit doux et paisible. On a tous, pas qu'elle, moi aussi, on a tous du travail à faire encore dans notre cœur. L'injustice nous révolte. Mais nous devons nous placer devant Dieu. Nous devons, et pour vous, femmes, chercher à travailler cet esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il y a des choses qui sont une grâce de Dieu, il y a des choses qui sont d'un grand prix devant Dieu. Votre caractère, mes chères dames ici ce matin, votre esprit doux et paisible, votre pureté incorruptible, parce que personne ne peut vous le prendre, personne ne peut l'entacher, c'est ça qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais j'aimerais finir ce matin avec ces quelques dernières phrases adressées à vous, les maris ou futurs maris. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien, ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous, Marie, portons une responsabilité particulière pour nos foyers. Nous devons demander de la sagesse à Dieu pour nos rapports avec nos épouses respectives. Rappelons-nous que la dignité, la valeur aux yeux de Dieu de notre épouse est la même que pour chacun de nous. Qu'elle aussi doit hériter de la grâce de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre lit ça aux obstacles à la prière. Je dois dire que je n'ai pas souvent pensé à cela quand je prie. Et je devrais plus penser à cela quand je prie. Est-ce que j'honore ma femme? Est-ce que je ne suis pas dans une situation où il y aurait des choses à régler, à dire, à faire, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à ma prière? Je peux dire ce matin que si je n'étais pas chrétien, je le serai par la force du témoignage de ma femme. De sa capacité à se soumettre, même quand c'est difficile. De son esprit, même quand c'est difficile, qui s'est resté doux et paisible. Je ne suis pas en train de dire que Sophie est parfaite. Mais je veux lui rendre honneur. Je finis avec ces paroles. Peuple de Dieu, vous, nous qui sommes des prêtres pour Dieu, nous qui pouvons nous approcher de Dieu, soyez conscients de votre dignité, de ce que Dieu a fait pour vous, de la place que vous avez dans le cœur de Dieu. Mais vous, peuple de Dieu, soyez aussi conscients de votre situation. Nous sommes en exode contre le péché, en lutte contre le péché. Et Dieu veut que nous remportions des victoires dans ces domaines-là, dans ce domaine-là. Il le veut parce que nous avons une mission en tant que peuple de Dieu. C'est que nous sommes et nous vivons dans cette création qui a besoin d'être libéré aussi du péché, qui a besoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Alors je vous invite à prier. Seigneur, peut-être que ce matin nous sommes venus avec de l'amertume, avec des déceptions, avec des désillusions. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, nos cœurs, que nous puissions voir combien, oui, il y a cette guerre à notre âme. Mais Seigneur, tu nous demandes de suivre ton exemple. Et tu nous as donné la victoire, tu nous as donné la puissance, et tu nous as affranchis, libérés de la puissance du péché. Seigneur, que chacun dans nos vies, et que nous puissions aussi avoir la liberté dans nos groupes de maison, dans nos discussions entre frères et sœurs, de pouvoir partager combien tu agis pour nous, combien nous avons besoin peut-être d'aide, de prière, de la foi des autres pour nous aider à vaincre le péché. Seigneur, tu nous demandes d'avoir une bonne conduite, tu nous demandes de faire le bien. Et pour cela, nous avons besoin de vivre comme toi tu as vécu. De vivre en aimant ceux qui nous rejettent, de vivre en nous soumettant, même quand cela est difficile. Seigneur, c'est ma prière ce matin, que nous puissions être conscients de tout ce que tu as fait pour nous, de notre situation et de la vie que tu mets devant nous. Seigneur, que nous puissions saisir toutes les opportunités de parler de l'amour que tu as pour chacun de nous, de parler de l'amour que tu as déversé dans nos vies. Seigneur, que vraiment, même si parfois nous sommes encore faibles, que Seigneur, vraiment, ça soit la puissance de ton amour, de ta miséricorde, qui transparaissent, qui se transpirent, qui prennent le dessus sur nos vies, et que cela puisse être un témoignage doux, paisible, affectueux pour ceux qui nous entourent. Amen.